إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 5 dans l'explication du livre اقتضاء صراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم avec les commentaires du Cheikh Saleh Al-Fawzan qui s'intitule At-Ta'liq Al-Qawim. Donc c'est le livre d'Ibn Taymiyyah expliqué par le Cheikh Saleh Al-Fawzan. On est arrivé donc au cours numéro 5 aujourd'hui et on est arrivé dans l'explication au point numéro 4. Parce que le Cheikh il a numéroté les commentaires par numéro. Donc chaque commentaire qu'il fait, il met un numéro à ce commentaire-là. Donc chaque fois qu'il explique un passage, il met un numéro. Donc ça c'est le point numéro 4. Donc on va suivre le numérotage que Cheikh Al-Fawzan a mentionné dans son char, dans son ta'liq, dans son commentaire. Donc Cheikh Ibn Taymiyyah il dit arsalahu bid-din al-qayyim والملة الحنيفية وجعله على شريعة من الأمر. Donc ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé, c'est-à-dire envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec la religion droite et avec la religion qui est al-hanifiyya. Al-hanifiyya, on va expliquer ce que ça veut dire tout à l'heure. Al-hanifiyya, c'est la religion d'Abraham. Okay, la religion d'Abraham, c'est-à-dire le monothéisme pur. وَجَعَلَهُ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ. Et il l'a placé sur une voie de l'ordre. Il l'a placé sur une voie de l'ordre. Et sharia, ça veut dire une voie. Hein? Et ça veut, on le traduit par législation ou bien par révélation. Hein? Parce que c'est qu'est-ce qui a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala, la sharia, c'est qu'est-ce qui a été révélé par Allah, comme par exemple le Coran et la sunna du prophète authentique Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est la sharia d'Allah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala l'a placé sur une voie de l'ordre. Shari'atun min al-amr. On va expliquer cette phrase que Cheikh Al-Fawzan a commenté. Il dit قوله أرسله بالدين القيم هذا لأنه سبحانه وتعالى قال قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم وكقوله تعالى ذلك الدين القيم وقال إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون والدين القيم هو الدين القويم المعتدل الذي لا اعوجاج فيه ولا غموض أما الحنيفية فهي الملة الخالصة المقبلة على الله المعرضة عما سواه وهي ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. Donc le Cheikh il explique, il dit que الدين القيم, quand l'imam Ibn Taymiyyah dit que Allah l'a envoyé avec la religion droite, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne ça dans plusieurs versets dans le Coran, comme le verset 161 dans sourate Al-An'am, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ô Muhammad, mon Seigneur m'a guidé vers un chemin droit, une religion de la droiture, la religion d'Abraham. Dinan qiyaman millat Ibrahim. Donc le terme din, ça, on le traduit par religion, et le terme millat aussi on le traduit par religion. Hein? Même si millat ça veut dire une voie, hein? Un chemin, une voie. C'est la voie d'Abraham. وكقوله تعالى ذلك الدين القيم. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 36 en sourate At-Tawbah, voilà la religion de la droiture. Et dans le verset 40 dans sourate Yusuf, Allah subhanahu wa ta'ala dit le jugement n'appartient qu'à Allah. Il a ordonné que nul ne soit adoré excepté lui. Voilà la religion de la droiture, mais la plupart des hommes ne savent pas. Mais la plupart des hommes ne savent pas. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il dit, la religion de la droiture, Ad-Din Al-Qayyim, c'est la religion qui est droite, qui est équilibrée, qui est modérée. Hein? Dans la voie sur laquelle il n'y a pas de... Il n'y a rien qui est... C'est-à-dire, Al-I'wijaj, ça veut dire... Il n'y a rien qui est, il y a pas de tournant, il n'y a pas de courbe, il n'y a pas de virage dedans, hein. Il n'y a pas de choses qui est, il n'y a pas de choses tortueuses ou compliquées ou difficiles, dans le sens que, je veux dire, c'est une voie qui est droite. Elle va tout droit. Il n'y a pas de virage à gauche ou de virage à droite. Ou des tournants, ou des choses comme ça. Non, c'est une voie qui est claire et qui est droite. Il n'y a rien d'obscur dedans. Yusuf, c'est le verset 40. Donc, le Jair, il dit, « Wa amma al-hanifiyya » Donc, « Ad-din al-qayyim » Quand tu dis « mustaqim »,« mustaqim », ça vient de « qayyim ». Hein? Ça, c'est la même racine. Et amma al-hanifiyya, en ce qui concerne le terme hanifiyya, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la voie, la religion qui est pure, hein, qui consiste à se tourner purement et uniquement vers Allah, et qui consiste à se détourner totalement de tout ce qui est en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est la religion d'Abraham, c'est-à-dire la voie qui consiste à se tourner uniquement vers Allah et à se détourner complètement de tout ce qui est en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est le pur monothéisme et c'est la voie d'Abraham, la religion d'Abraham alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala, le Cheikh il dit Wallahu jalla wa ala qad ba'atha nabiyyana Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam bi millati Ibrahim kama qal thumma awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim hanifa وما كان من المشركين وقال سبحانه وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين فملة إبراهيم حنيفية إبراهيم حنيف قال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا بمعنى أنه مقبل على الله معرض عن ما سواه. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec la religion d'Abraham, comme c'est mentionné dans le verset 123 dans sourate An-Nahl. Allah subhanahu wa ta'ala dit puis nous t'avons révélé de suivre la religion d'Abraham et d'être un hanif, hein, de suivre la religion d'Abraham en étant hanif. Et hanif ça veut dire que tu te tournes uniquement vers Allah, puis que tu te détournes complètement de tout ce qui est en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Hein? Et il n'était point du nombre des idolâtres, il n'était point du nombre des gens qui font le shirk et des mushrikin. Donc ça c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le Coran, pour dire que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a été ordonné de suivre la religion d'Abraham et rien d'autre. Wa qala subhanahu wa ta'ala, وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين فملة إبراهيم Hanifiya. Wa Ibrahim Hanif. Donc, le cheikh, il mentionne l'autre verset ensuite qui dit, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans le verset 78, dans Surat Al-Hajj, 78 dans Surat Al-Hajj, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est lui qui vous a élu et il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion, celle de votre père Abraham, lequel vous a déjà nommé musulman avant. Donc ça c'est le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne clairement que la religion qu'on doit suivre, c'est la religion de notre père Abraham. Et il dit Famillatu Ibrahim, donc la religion d'Abraham, c'est une religion qui est qu'on définit comme étant Hanifiya. Et Ibrahim était un Hanif. Hanif, c'est la religion des gens qui se tournent uniquement vers Allah et qui délaissent tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 120, dans Surat An-Nahl, Ibrahim était certes une nation. Hein? Il était à lui seul une umma obéissant à Allah et hanif. Bima'na annahu muqbilun 'ala Allah mu'ridun 'an ma siwah. Donc hanif, ça signifie que il se tournait uniquement vers Allah et qu'il se détournait de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il rejetait et il détestait et il s'éloignait de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le shaykh il dit wa qawluhu wa ja'alahu 'ala shari'atin min al-amr hadha muntaza'un min qawlihi ta'ala thumma ja'alnaka 'ala shari'atin min al-amr fattabi'aha wa la tattabi' ahwa' alladhina la ya'lamun innahum lan yughnu 'anka min Allahi shay'an wa innal zalimin ba'dhum awliya'u ba'd wallahu waliyyul muttaqin. وقوله تعالى فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. Donc le cheikh il dit, puis nous t'avons mis sur une sharia de l'ordre, hein, sur une voie de l'ordre. Ça c'est une parole que Ibn Taymiyyah a dit qui est tirée d'un verset dans le Coran qui est le verset 18 et 19 dans surat Al-Jathiyah. Al-Jathiyah, c'est en français, c'est l'agenouillé. C'est traduit par l'agenouillé. Wa tara kulla ummatin jathiyah. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Donc ça c'est yani la sourate en question, hein, le Coran, c'est la sourate 45. Le verset 18-19. Qui signifie puis nous t'avons mis sur la voie de l'ordre, une sharia de l'ordre, suis-la donc suis-la et ne suis pas les passions de ceux qui ne savent pas. Ils ne te seront d'aucune utilité vis-à-vis d'Allah. Les injustes sont vraiment les alliés les uns des autres, tandis qu'Allah est le protecteur des pieux. قوله تعالى فاستمسك بالذي أوحي إليك وقوله تعالى فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم والمعنى أن الله تعالى أمر نبيه أن يستمسك بهذه الشريعة التي أوحاها الله إليه وجعلها له طريقا يسير عليها. وهذا فيه وصية لأمة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وهي أن تتمسك بهذه الشريعة وأن تترك ما عداها من الشرائع التي ضل أصحابها باتباعهم الهوى وأن لا تعبأ بما يكال للإسلام من اتهامات وشبهات كوصفه تارة بأنه دين رجعي وبأن أتباعه إرهابيون تارة أخرى فإن كل منصف فإن كل منصف إذا نظر إلى هذه الشريعة وجد أن هذه الشريعة كلها رحمة وكلها عدل, إذ ليس فيها غلو ولا تفريط, وأن هذا الدين هو دين قيم كما قال الله عز وجل ذلك الدين القيم. Donc le cheikh il dit ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala il dit également, il dit également, accroche-toi à ce qui t'a été révélé. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il lui dit, accroche-toi à ce qui t'a été révélé car tu es certes sur un chemin droit. Le verset 43 dans surat al-Zukhruf. Et le cheikh il dit que la signification de ça, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de s'accrocher à cette sharia qui lui a révélé et qu'il a fait pour lui un chemin à suivre, hein, sur lequel il doit avancer. Et il y a dans ça un enseignement pour la umma de ce messager sallallahu alayhi wa sallam, pour que cette umma, elle aussi, s'accroche à cette sharia, s'accroche à cette révélation, et qu'elle délaisse et qu'elle abandonne toutes les autres législations qui sont en dehors de celle-ci, parmi les législations des peuples qui se sont égarés en suivant leur passion, et qu'elle ne prenne pas considération et qu'elle ne s'occupe pas ou qu'elle ne se préoccupe pas de ce que les ennemis de cette religion-là lancent comme accusation et comme ambiguïté et doute contre cette religion. Comme par exemple lorsqu'ils essaient de décrire les musulmans en disant que, ou de décrire l'islam en disant que c'est une religion rétrograde. Hein, une religion qui nous ramène en arrière, ou qui, hein, une religion qui est rétrograde, qui nous amène au passé, qui nous amène en arrière, qui est pas moderne, qui est pas progressiste, qui est pas, qui nous amène pas vers l'avant. Et ils accusent parfois les musulmans d'être des terroristes, hein, ou des choses comme ça. Yann. Donc, le cheikh, il dit, toute personne qui est juste et qui est honnête, hein, et qui est sincère, lorsqu'elle va étudier et observer la charia de l'islam, elle va trouver que tout ce qui est dans cette charia, tout ce qui est dans la législation de l'islam, dans la révélation d'Allah, n'est que miséricorde et justice. Il n'y a rien d'autre dans cette charia que miséricorde et justice. Puisque dans la charia de l'islam, il n'y a pas d'exagération, et il n'y a pas de laxisme non plus. C'est le juste milieu. Il n'y a pas d'exagération dans l'extrême, le fait d'aller trop loin. Puis il n'y a pas de laxisme aussi, c'est-à-dire l'autre extrême de vouloir enlever dans la religion ou faire moins que ce qui est obligatoire et nécessaire. Et en plus, cette religion, c'est la religion de la droiture, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans le verset 30 dans sourate Ar-Rum, ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ. Voici la religion de la droiture. Le verset 30 dans sourate Ar-Rum. Ar-Rum, c'est les Romains. Le cheikh il dit ensuite, cheikh Ibn Taymiyyah, ça c'est le commentaire numéro, l'explication du passage numéro 5, amara bittiba'iha wa amarahu bi an yaqul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama taslima. Donc, qu'est-ce que ça signifie ce passage? Ça signifie que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de suivre cette sharia, c'est-à-dire de suivre cette législation. Donc, en fait, juste pour revenir sur qu'est-ce qu'on vient juste d'expliquer, C'est comme si le Cheikh Ibn Taymiyyah est en train de nous dire et de nous expliquer que la voie droite qu'on doit suivre, c'est la charia d'Allah. C'est la révélation d'Allah. C'est la législation d'Allah. Et que la charia, c'est la vérité, parce qu'elle vient d'Allah, et c'est la droiture, et c'est la justice, et c'est l'équilibre, et c'est yani, le juste milieu. Donc, même si on nous accuse, ou on nous lance des noms, ou des sobriquets pour dire, par exemple, « Ah, les musulmans, c'est des extrémistes, les musulmans, c'est des gens terroristes, les musulmans, la charia, c'est, une, c'est quelque chose qui est rétrograde, c'est quelque chose qui est du passé, c'est contre le progrès, c'est contre la modernité, c'est contre ci, c'est comme ça. » Peu importe les accusations que les koufars vont lancer contre l'islam, contre la charia et contre les musulmans, eh bien, les musulmans doivent rester accrochés fermement à la charia d'Allah. Peu importe qu'est-ce qu'ils disent. Peu importe les mensonges et les faussetés et les choses laides qu'ils vont essayer de lancer comme accusation contre l'islam et les musulmans. Parce que le but de ces koufars, lorsqu'ils disent ça, c'est uniquement une seule chose, de faire en sorte que les musulmans abandonnent la charia d'Allah. C'est uniquement ça leur intention et leur but. Donc le musulman, peu importe qu'est-ce qu'il entend de la bouche de ces koufars comme parole d'accusation et comme parole de shubuhad pour éloigner les musulmans de la vérité, les musulmans doivent comprendre ça, que c'est une ruse, que c'est par jalousie, par haine pour la vérité que ces koufars-là disent ces choses-là, et ils doivent savoir que ce sont des gens qui ont suivi leur passion, qui n'ont aucune preuve pour ce qu'ils font, et qu'ils ne font que essayer d'égarer les musulmans avec eux. Donc les musulmans doivent savoir ça et rester conscients de ça et avoir confiance en leur créateur, en leur seigneur, de savoir que tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a révélé dans la révélation, c'est la vérité. Et ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reçu comme révélation et ce qu'il a transmis de la charia, c'est la vérité. Et de rester convaincu de ça avec une conviction ferme et profonde, et de ne rien laisser venir mettre des doutes dans leur cœur à ce sujet-là, et de l'affirmer avec force et avec conviction et avec foi. Hein. Et il faut que le croyant soit inébranlable dans ces questions-là. Ça, c'est très, très, très important. Et une fois que tu as compris ça et que tu t'es accroché à ça, eh bien, Inch'Allah, tu vas pas, il n'y a personne qui peut te faire dévier. Tant que tu t'accroches à la science et à la connaissance, il n'y a personne qui va te faire dévier si tu restes sur cette voie-là. Donc, le Cheikh, il dit, Allah nous a ordonné de suivre cette voie-là et d'écouter ce commandement-là et cet ordre-là. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, voici, qul hadhihi sabili. Il dit, dit au Muhammad, voici mon chemin. Hein? J'invite les hommes à Allah. Hein? J'invite à Allah. Avec connaissance, avec science, moi ainsi que ceux qui me suivent, c'est-à-dire moi et ainsi que ceux qui me suivent, nous appelons à Allah. Nous appelons à Allah avec science. Donc ça, c'est la voix du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est la voix de ceux qui suivent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que d'appeler et d'inviter les hommes à suivre cette charia, à suivre ce Coran, à suivre cette sunna. Si tu dis, je suis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais que tu invites pas les hommes à Allah, et que tu ne fais pas de da'wah à Allah, ça veut dire que tu ne suis pas réellement le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrit ceux qui suivent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ce verset-là, il les a décrits en disant qu'ils appellent à Allah avec science. قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. Moi ainsi que ceux qui me suivent. Donc si tu fais partie de ceux qui suivent, eh bien tu dois appeler toi aussi et inviter les hommes à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le Cheikh il explique. Il dit, Cheikh Al-Fawzan dans le commentaire numéro 5, Amar Allah ta'ala nabiyahu bi amrayn. Al-awwal an yattabi' hadhihi ash-shari'ah kama qala subhanahu wa ta'ala. Ah oui, puis à la fin j'ai oublié que le Cheikh il dit wa sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama taslima, c'est-à-dire et que le salut et la paix soit sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur ses fidèles ainsi que sur ses fidèles. Naam. Et donc le cheikh il dit, donc il explique que Allah a ordonné deux choses. La première chose, il dit أن يتبع هذه الشريعة كما قال سبحانه وتعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها أي سر عليها ولا تلتفت إلى ما سواها لأنها هي الحق وهي وما سواها فهو الباطل وقال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné à son prophète deux choses. La première chose, c'est de suivre cette charia, de suivre le Coran et la Sunna. Allah dit, puis nous t'avons mis sur la charia de l'ordre. Alors, suis-la. Suis-la, le verset 18, dans surat al-Jathia, comme on a lu tout à l'heure. C'est-à-dire, marche et avance sur cette voie. Avance sur cette charia. Et ne te tourne pas vers aucune autre voie que celle-là. Vers aucune autre charia que celle-là, parce que c'est elle qui est la vérité. Et tout ce qui est en dehors de cette charia, c'est le faux, c'est le mensonge, c'est la fausseté. وَقَالْ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِ l'a dit, et il a dit, dis, voici mon chemin, dans toute sa, hein, voici mon chemin, voici ma voie, j'invite à Allah avec science, avec compréhension, moi ainsi que ceux qui me suivent. Et la deuxième chose qu'Allah a ordonné, c'est d'inviter à Allah, hein, dans ce verset. والثاني الدعوة إلى الله بالطريقة التي أمره بها. فقوله قل هذه سبيلي أي هذه طريقتي ومنهجي الذي أسير عليه في الدعوة إلى الله في توحيده وعبادته. ولا تكون الدعوة إليه جل وعلا إلا بما أمر. وبينها بقوله على بصيرة أنا على بصيرة أي على علم وهدى وهذا فيه أن من مقومات الدعوة إلى الله وأن من مقومات الدعوة إلى الله العلم فالجاهل لا يصلح أن يدعو إلى الله لأنه قد يحلل حراما أو يحرم حلالا أو يقول على الله بغير علم ولأنه لا يستطيع مجابهة الشبهات التي توجه إليه من قبل المعترضين فلا بد أن يكون عنده علم يكشف به الشبهات المضللة ويدفع به الأباطيل الملفقة وإلا فإنه سيفشل في دعوته ولن يكون له تأثير على غيره. Donc le cheikh il dit, la deuxième chose c'est d'inviter Allah selon la façon qu'il a été ordonné de le faire. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le verset, dit voici mon chemin, c'est-à-dire voici ma voie, voici mon chemin, voici ma méthodologie, la méthodologie que je suis dans l'invitation que je fais, dans l'appel que je fais à Allah et à son unicité et à son adoration, lorsque j'appelle les hommes à adorer et à unifier Allah. Et la da'wa, yani la da'wa vers Allah subhanahu wa ta'ala, elle ne peut être que d'appeler vers ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné. Hein? C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait l'appel, il invite les hommes selon l'ordre qu'il a reçu de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il l'a expliqué en disant « ala basiratin », c'est-à-dire avec science, avec guidance. Hein? Il ne fait pas juste appeler comme ça les hommes, dire « adorez Allah, venez vers l'islam ». Il leur explique avec science et il leur clarifie la religion avec les détails. Il dit وهذا فيه أن من مقومات الدعوة إلى الله العلم. Donc le cheikh il explique que parmi les éléments qui ont rapport avec yani, parmi les éléments qui constituent les choses que le da'ya a besoin dans sa da'wa à Allah, c'est la science. La personne qui appelle et qui invite les hommes à Allah, il faut qu'il ait du ilm, il faut qu'il ait de la science. Parce que l'ignorant ne peut pas faire de la da'wah. Il peut pas, l'ignorant ne peut pas appeler les hommes à Allah. Parce que s'il commence à essayer d'appeler les hommes à Allah avec son ignorance, le cheikh il dit que cette personne-là, qu'est-ce qu'elle va faire par la suite? Elle va rendre haram ce qui est halal, elle va rendre halal ce qui est haram. Et ça c'est dangereux, hein, parce que c'est la législation. Donc tu vas parler à propos d'Allah sans science. Tu risques de t'égarer et d'égarer les autres. Parce que tu parles sans connaissance de l'islam, sans avoir étudié l'islam avec les ulama. Et dans ce cas-là, tu ne peux pas faire la da'wah comme il faut. Tu ne peux pas faire de da'wah comme il faut. Tu vas faire da'wah n'importe comment. Et ça, ce n'est pas acceptable. Et ce n'est pas correct. Le cheikh, il dit, tu ne seras pas capable d'affronter les ambiguïtés et les doutes que les opposants de la vérité vont te lancer et vont te jeter. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas être confus et tu vas confondre les autres. Hein? Donc, la personne qui fait la da'wah, il faut qu'elle ait de la science. Et que cette science-là soit capable de lui permettre, hein, qu'il soit capable par cette science de démasquer et de dévoiler les ambiguïtés d'égarement que peuvent lui lancer les gens de l'égarement et les gens de la fausseté, les gens qui suivent la bid'a, les gens qui suivent les passions, et les gens qui suivent le shirk. Si la personne qui fait la da'wah, elle n'a pas de science, elle n'a pas de base, elle va échouer dans sa da'wah. Elle va échouer dans sa da'wah et sa da'wah ne va pas avoir d'impact. Elle ne va pas avoir d'effet positif. Yani, si tu fais la da'wah à Allah, tu rencontres des koufars, des chrétiens, des juifs, des athées, hein, des bouddhistes, des hindous. Tu les appelles à Allah, là ils commencent à te poser des questions, ils commencent à te lancer des shubuhat. Là tu es bloqué, tu ne peux plus répondre, tu ne sais pas quoi dire. Ta da'wah ne va pas avoir un impact fort et solide parce que tu n'as pas d'ilm, hein? Ou bien tu vas parler avec des gens de bid'a, hein? Tu vas discuter avec des gens, des musulmans qui ont des shubuhat, soit des shubuhat des khawarij ou des shia ou des rafida ou des soufis ou des tablir ou des ikhwan. Ils vont te lancer des shubuhat, ils vont te lancer des paroles, ils vont te dire un tel a dit, un tel a dit, un tel a dit, un tel a dit. Toi, tu connais rien de ces choses-là, tu vas commencer à te mélanger, tu vas dire, hein, comment ça? Puis là, tu ne peux pas lui répondre parce que tu n'as pas de preuve, tu n'as pas d'explication, tu n'as pas de clarification. Donc, tu vas t'égarer toi-même, tu vas égarer les autres. Donc, ça, c'est dangereux. Et c'est pour ça, donc, le cheikh, il dit, pour faire la da'wah, il faut avoir de la science. Tu ne peux pas faire de la da'wah si tu n'as pas de science. Et le cheikh, il dit, « Wa qawluhu ala basiratin ana wa mani taba'ani ay ad'u ila Allahi » أنا ومن اتبعني واقتدى بي على علم وهذا يؤخذ منه أن الجاهل لا يصلح أن يدعو إلى الله ولا يجوز له أن يفتي الناس بغير علم ولكن له أن يأمر الناس بالخير على وجه العموم كأن يأمرهم بالصلاة وبر الوالدين والصدقة أن يأمرهم بالأمور الظاهرة ويحثهم عليها فكل عليه قدر من الدعوة بحسبه أما الأمور المتعلقة بالحلال والحرام والتوحيد والشرك والبدع والمحدثات وما يتعلق بتفاصيل أمور الشريعة فلا يخوض غمارها أو غمارها إلا من كان على جانب من العلم بعلوم الشريعة ومقاصدها. Donc le cheikh il dit, donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset, ce qui signifie, hein, j'invite à Allah avec science, moi ainsi que ceux qui me suivent. C'est-à-dire que moi ainsi que ceux qui me suivent, nous invitons à Allah. Moi ainsi que ceux qui suivent mon exemple, nous invitons à Allah avec science. Avec science. C'est-à-dire qu'on peut prendre de ça que la personne qui est ignorante, elle ne peut pas, elle n'est pas apte, elle ne peut pas inviter les hommes à Allah. Et il ne lui est pas permis de faire des fatwas sans science, c'est-à-dire de donner des verdicts religieux sans science. Mais elle a le droit d'appeler ou d'ordonner les gens de faire le bien de façon générale. Comme par exemple, elle va leur dire de faire la salat. d'être bon envers les parents, de donner en aumône et en charité. Elle leur ordonne des choses, la personne qui est ignorante de la charia, elle peut ordonner le bien parmi les choses générales et apparentes qui sont connues parmi les bonnes choses de l'islam. Yani, donc le cheikh dit que chaque personne va inviter à Allah et va appeler à l'islam selon sa, selon ce qu'il a, selon ce qu'il est capable. Elle va dire par exemple, accrochez-vous à la salat, faites la salat. La salat à son temps c'est important, il ne faut pas négliger la salat. Il faut donner un sadaqa, donner l'aumône. Hein? Soyez bon envers vos parents, obéissez vos parents, à vos parents, ça c'est important. Il y en a une da'wah de façon générale, pas rentrer dans les petits détails. Donc la personne peut dire, accrochez-vous à la sunna, éloignez-vous des bid'a, accrochez-vous à l'islam, soyez des bons musulmans, soyez sérieux, mentir c'est haram, voler c'est haram, tromper les gens c'est haram. Hein, de façon générale, mais sans rentrer dans les petits détails. Comme ça, le cheikh il dit, tu vas pas rentrer dans les questions qui ont rapport avec qu'est-ce qui est halal, haram. Hein? Comme si, est-ce que ça c'est halal ou haram? Ça, oui, ça c'est halal. Non, ça c'est haram. Non, 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 non. Tu sais pas, tu te tais. Tu sais pas quelque chose dans la religion de l'islam? Tu sais pas si c'est halal ou c'est haram? Tais-toi. Dis, je sais pas. Hein? Dis, je sais pas. Comme ça, tu évites de mentir à propos d'Allah. Hein? Et des questions qui ont rapport avec le tawhid et le shirk, tu ne sais pas si quelque chose est shirk ou si quelque chose n'est pas shirk, tais-toi. Ça c'est des choses graves. Si c'est un shirk majeur ou mineur, tu ne sais pas. Est-ce que c'est shirk majeur? Je ne sais pas. Est-ce que c'est shirk mineur? Je ne sais pas. Est-ce que c'est kufr majeur ou kufr mineur? Je ne sais pas. Est-ce que c'est nifaq majeur ou mineur? Je ne sais pas. C'est quoi le hukum? C'est quoi le verdict? Je ne sais pas. Dans ce cas-là, tu te tais. Tu ne parles pas de ce que tu ne sais pas. Et la même chose pour les questions qui ont rapport avec les innovations, les bid'ah. Est-ce que ça, c'est bid'ah ou non? Est-ce que ça, ça fait partie des inventions dans la religion? Je ne sais pas. Donc, les questions qui ont rapport avec les détails de la charia, tu ne rentres pas là-dedans. Hein? Et tu ne te mêles pas de ça. Tu restes uniquement dans les choses que tu sais avec certitude, hein, et les choses que tu es capable d'expliquer dans la limite de ta connaissance. Tu retournes à qu'est-ce que les savants ont dit, puis tu le transmets et ça s'arrête là. Hein? Parce que qu'est-ce qui se passe maintenant, Allah al-Musta'an, surtout dans les pays de Kufr, les jeunes, ils se prennent tous pour des savants. Les jeunes, ils se prennent tous pour des savants, des prêcheurs, des imams de mosquée ou des frères qui font des khutbas dans la prière de vendredi. Ils donnent des discours, ils pensent qu'ils deviennent des savants après. Les gens commencent à les regarder, ils regardent, ils leur posent des questions sur l'islam. Est-ce que ça c'est halal? Est-ce que ça c'est haram? Est-ce que ça c'est permis? Et ils ne réfèrent pas les gens de retourner aux ulama. Donc ça c'est une fitna. C'est une fitna pour la personne. Parce qu'après elle va commencer à perdre la face devant les gens. Si elle ne peut pas répondre, elle va dire, ah mais si la personne me pose la question puis je ne peux pas lui répondre, qu'est-ce que les gens vont penser, qu'est-ce que les gens vont dire? Ils vont dire que j'ai pas d'ilm, ils vont dire que j'ai pas de science. Alors là après, commence à répondre, même s'il ne sait pas, il va dire des choses qui sont fausses. Et puis après, il s'égare et il égare les gens avec lui. Ça c'est très 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 dangereux. Hein? Donc maintenant tu vois des petits jeunes à Montréal qui ont jamais étudié avec des ulamas de l'islam, qui sont jamais allés chercher la science, et ils sont en train de donner des cours, ils sont en train de prêcher. Et c'est, en France c'est la même chose, et dans plusieurs pays dans le monde, commencent à donner des fatwas sur l'islam. Ils disent n'importe quoi. Puis quand tu prends les fatwas qu'ils donnent et puis tu les ramènes aux ulamas, tu dis un tel il a fait tel fatwa. Les ulamas, ils n'en croient pas à leurs oreilles, qu'est-ce qu'ils entendent de ces gens-là. Hein? Donc ça, c'est très, très, très grave, très dangereux. Parce qu'ils dépassent leurs limites. Et même, il y en a à Montréal, il y a un frère qui m'a mentionné des exemples de certains de ces jeunes-là, parmi même qui ont des égarements, parce qu'ils appellent à la voix des khawarij et ils font le takfir, et ils disent aux jeunes, On n'a pas besoin des ulama. On n'a pas besoin des ulama. Les ulama, ils ne comprennent pas ou ils ne savent pas. Ils dénigrent les ulama, puis ils s'élèvent lui-même. Hein? Donc, depuis que tu entends quelqu'un, peu importe qui il est, qui dénigre les ulama de Ahlus Sunnah et qui parle mal des ulama, tout de suite tu sais que cette personne, c'est quelqu'un qui est perdu, qui est égaré, complètement dévié de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après le cheikh il dit وما يتعلق بتفاصيل امور الشريعه فلا يخوض غمارها الا من كان على جانب من العلم. Donc les questions qui ont rapport avec les détails des questions de la sharia, alors personne ne doit s'aventurer là-dedans et patauger dans ça excepté celui qui a un bon niveau de science, un bon niveau de connaissance de la sharia et des objectifs de la sharia. Le cheikh dit ensuite wa amma qawluhu sallallahu alayhi wa sallam amma qawluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam taslima فإنه لما جاء بالشهادتين في بداية كلامه أتى بعد ذلك بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عملا بقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ومعنى الصلاة من الله جل وعلا على نبيه ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى وهي من الملائكة الاستغفار له وهي من المؤمنين الدعاء له صلى الله عليه وسلم. ونبي صلى الله عليه وسلم له حقوق علينا ومن أعظم حقوقه أن نصلي عليه ونسلم تسليما كلما ذكرناه سواء كان ذلك في صلاتنا أو قبل أو بعد دعائنا وفي كل وقت ذكر فيه فإن الدعاء معلق لا يقبل حتى يصلى الداعي أو يصلي الداعي لا يقبل حتى يصلي الداعي عليه. وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. Donc qu'est-ce que ça signifie ça? Ça signifie ensuite que Ibn Taymiyyah, quand il dit et que la paix et le salut d'Allah soient sur lui ainsi que sur ses fidèles, c'est-à-dire que lorsque le cheikh il a terminé de mentionner les deux témoignages shahadatayn ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah au début de son discours, de sa parole, il a dit après et paix et salut sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en agissant selon ce qui est mentionné dans le verset 56 dans sourate al-ahzab, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit Allah, certes Allah ainsi que ses anges envoient leur salut sur le prophète. Ô vous qui avez cru, envoyez sur lui la salutation et la paix. Et le cheikh explique que d'envoyer le salut, que Allah envoie son salut sur son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il fait ses éloges auprès de ses anges. Et le salut des anges sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire le fait qu'il demande pardon à Allah pour lui. Et le salut des croyants sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça signifie les invocations qu'ils font pour lui. Les invocations qu'ils font pour lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a des droits sur nous. Et parmi ses plus grands droits, c'est que nous envoyons la paix et le salut sur lui, comme cela a été mentionné. Et peu importe que ce soit yani avant ou après notre doua, eh bien yani c'est légiféré de mentionné la paix et le salut sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam à chaque fois qu'il est mentionné. Et il dit le cheikh que notre invocation qu'on fait, lorsqu'on fait un dua à Allah et on demande quelque chose, eh bien, le fait que cette invocation-là soit acceptée ou non, c'est rattaché directement au fait d'envoyer la paix et le salut sur le prophète. Donc si on veut que notre invocation soit acceptée d'Allah, c'est bien de terminer cette invocation-là par la mention de la paix et du salut sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et au début ou à la fin. Et le cheikh il a dit, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme c'est rapporté dans la musnad de l'imam Ahmad selon Abi Huraira et Abu Dawud, dans la musnad de l'imam Ahmad et de Abu Dawud selon Abi Huraira, il a dit: envoyez la paix et le salut sur moi, parce que votre invocation va m'atteindre, c'est-à-dire l'invocation que vous faites pour moi et le salut que vous envoyez pour moi va me parvenir, peu importe où vous êtes. Lorsque tu dis sallallahu alayhi wa sallam, paix et salut sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, eh bien c'est quelque chose qui lui est transmis. Les anges lui transmettent ce salut. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. Donc chaque fois, comme c'est rapporté par l'imam Muslim selon Abdullah ibn Amr رضي الله عنهما, il dit: chaque fois que tu invoques le salut et la paix sur le prophète صلى الله عليه وسلم une fois, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala lui va envoyer la paix et le salut 10 fois. Naam. Ensuite, le commentaire numéro 6. Le cheikh, il dit, le cheikh l'islam Ibn Taymiyyah, il dit: wa ba'd fa inni qad nahaytu imma mubtadi'an wa imma mujiban an at-tashabbuh bil kuffar fi a'yadihim وأخبرت ببعض ما في ذلك من الأثر القديم والدلالة الشرعية. Donc Ibn Taymiyyah il dit, et ensuite, donc à la fin de l'introduction, les ulama ils ont l'habitude, et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam il faisait ça, quand il passe d'un sujet à un autre, il dit wa ba'd, c'est-à-dire et ensuite. Et il dit: J'ai interdit, soit, c'est-à-dire que Ibn Taymiyyah il a fait des fatwas sur le sujet du fait d'imiter les kuffars et que cette chose-là est interdite. Donc il a fait des fatwas sur l'interdiction d'imiter les kuffars dans leur fête, dans leur célébration. Et il mentionne qu'il l'a fait soit de lui-même directement en écrivant sur le sujet pour l'expliquer et le clarifier, ou bien parce qu'on lui a posé la question, donc il répondait à la question de quelqu'un, il a parlé de ce sujet-là, et il a mentionné à ce sujet certaines des narrations anciennes qui ont été rapportées à ce sujet-là, ainsi que des preuves de la charia sur la question. Donc Cheikh Al-Fawzan, il dit dans le commentaire numéro 6, au sujet de ce passage, il dit: قوله وبعد هذه الكلمة تؤتى بها للانتقال من كلام إلى كلام آخر ويقال إنها كلمة فصل بين كلمتين وقوله كنت نهيت إما مبتدئا يعني أنني أنهى ابتداء دون أن يسألني أحد وإما مجيبا يعني لما يسألني لمن يسألني فهو رحمه الله ينهى عن البدع ويحذر منها وقد اعترض عليه بعض الناس كما سيذكر فيكون هذا بيان منه لسبب تأليف في هذا الكتاب القيم فيكون هذا بيان منه لسبب تأليف هذا الكتاب القيم. Donc le cheikh il dit que la parole quand on dit « wa ba'd » ça veut dire « et après ». Ça c'est une parole que les que les Arabes mentionnent, ou que les gens ramènent ou rapportent pour changer de sujet. Lorsqu'ils passent d'un sujet à un autre ou une parole à une autre, ils disent « wa ba'd » pour dire « et ensuite ». Ou bien « et maintenant, passons à un autre sujet ». Et il dit « j'ai déjà interdit » en débutant, c'est-à-dire qu'il a commencé, cher, il dit, ça veut dire qu'il a commencé à écrire sur ce sujet-là ou à parler de ce sujet sans que quelqu'un lui demande, ou bien en répondant à quelqu'un qui lui a posé la question sur le sujet. Donc, il dit, rahimahullah, qu'il a interdit les innovations et il a averti contre les innovations, et il y a certaines personnes qui se sont objectées à ce qu'il avait dit à ce sujet-là. Donc, il y a des gens qui ont, comme il va le mentionner plus tard, il dit, il y a des gens qui se sont objectés au fait que j'ai mentionné l'interdiction d'imiter les koufars. Et donc, il explique ça dans le but de mentionner pourquoi il a écrit ce livre. Pourquoi il a écrit ce livre, Yanni, qu'il a écrit. Et souvent, Ibn Taymiyyah, au début de ses livres, il explique c'est quoi la raison pourquoi il a écrit le livre. Il y a toujours une raison pourquoi il a... Soit parce qu'on lui a posé la question, alors il répond, ou soit parce que c'est... Il a voulu clarifier le sujet, donc il a écrit un livre sur ça. Donc il explique toujours au début du livre pourquoi il l'a écrit. Il dit « Wa qawluhu an al-tashabbuhi bil-kuffari fi a'yadihim. Al-a'yad jam'u 'id. Wa huwa ma ya'ud wa yatakarrar. Wa huwa yanqasimu ila qismain. » Donc le cheikh il dit que Ibn Taymiyyah il a écrit donc au sujet de l'interdiction de ressembler aux koufars dans leurs fêtes et dans leurs célébrations. En arabe, le terme qu'on utilise pour désigner les fêtes et les célébrations, c'est le terme Eid. Et Eid, le pluriel du mot Eid, c'est A'yad. Le pluriel de Eid, c'est A'yad. Ok? Et A'yad, c'est tout ce qui se répète. Eid, c'est tout ce qui revient et qui se répète. C'est-à-dire, ça revient chaque année. Quelque chose qui se répète et qui revient à la même date chaque année ou au même endroit. Et comme le cheikh il a dit que c'est ce genre de Eid, qu'est-ce qu'on appelle Eid, ça se divise en deux catégories, comme on a expliqué dans les cours précédents. Il y a Al-Eid Al-Zamani et Al-Eid Al-Makani. C'est-à-dire l'événement qui se répète dans le temps et l'événement qui se répète à un endroit. Ok? Et Al-Aïd al-Zamani, Ka'id al-Mawlid, wa A'yad al-Muluk, wa ghayri dhalika min ayyamihim, allati yahtafiluna fiha, wa yatakarraru minhum fiha, hadha l'ihtifal. Wa Al-Aïd al-Makani, wa huwa al-Makan al-Ladhi yajtami'u fihi al-Nas, في وقت معين لنوع من التنسك والعبادة أو طلب البركة وهو ينقسم إلى قسمين عيد مكاني شرعي وعيد مكاني بدعي. Donc le cheikh il dit que العيد الزماني c'est la célébration qui se répète dans le temps, comme la naissance de quelqu'un, l'anniversaire de quelqu'un, ou la célébration qu'ils font, par exemple, pour la naissance ou la mort des rois, ou les jours dans lesquels ils célèbrent la naissance de quelqu'un. Ça, c'est des exemples de Eid que les gens célèbrent, qui sont reliés à une époque, ou à un moment, ou à une période de l'année, dans le temps. Et bien entendu, ça c'est pas permis. Ce genre de célébration-là, c'est pas permis dans l'islam. De même que Al-Eid al-Makani. Al-Eid al-Makani, c'est un Eid quelque chose qui se répète à un endroit particulier. Les gens se réunissent à cet endroit-là, à un moment, ou bien à un endroit spécifique de l'année, à un temps spécifique. Il dit le cheikh, c'est un endroit dans lequel les gens se réunissent à une époque ou à un moment spécifique pour faire un acte d'adoration ou pour chercher la bénédiction, comme le font les mouchriquins autour des tombes des saints, ou bien de l'endroit où les saints sont, des hommes pieux sont enterrés. Ils se réunissent chaque année à cet endroit-là pour chercher la bénédiction ou pour faire des actes d'adoration ou pour faire le tawaf autour de la tombe, ça c'est des actes de shirk et des actes de bid'ah, et yani, ça ne fait pas partie de ce qui est permis. Et c'est pour ça que le cheikh il dit qu'il y a deux sortes de Eid makani. Le Eid, le fait de se rassembler pour, dans un endroit spécifique pour faire ce genre d'adoration ou célébration, ça se divise en deux. Il y a le Eid makani qui est en accord avec la sharia, le fait de se rassembler dans un lieu qui est en accord avec la sharia, c'est-à-dire il y a des preuves dans la sharia pour justifier ça, et l'Eid al-makani al-bid'i, c'est-à-dire qui est innovation, c'est-à-dire c'est une bid'a. Ça veut dire qu'il n'y a pas de preuve dans la charia pour justifier ce rassemblement-là, à cet endroit-là, à cette époque-là. Le cheikh, il dit, « وَالْعِدُ الْمَكَانِ الْبِدْعِي الْبِدْعِي هُوَ الْاِجْتِمَاعُ فِي مَكَانٍ لَمْ يَشْرَعَ اللَّهُ او لَمْ يَشْرَعِ اللَّهُ الْاِجْتِمَاعُ فِيهِ لِأَجْلِ التَّقَرُّبِ إِلَيْهِ فَهُوَ بِدْعَةٌ وَلِذَلِكَ لَمَّا جَاءَ الرَّجُلُ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقد أراد أن ينحر إبلا بموضع يقال له بوانة لنذر نذره أو لنذر نظره فقال له صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد قال لا قال هل كان فيه عيد من أعيادهم يعني هل كان في عادتهم أن يجتمعوا في هذا المكان تعبدا لله قال لا قال فأوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. Donc le cheikh il explique un principe et un point important. Il dit que l'Eid al-Makani al-Bid'i ou al-Bid'i, l'endroit où les gens se réunissent pour faire une adoration particulière qui est contraire à la charia parce que c'est une innovation, c'est une bid'a, il dit que c'est de se réunir à un endroit que Allah n'a pas légiféré, dans lequel Allah n'a pas légiféré qu'on se réunisse à cet endroit-là. Et que la raison pour laquelle on se réunisse à cet endroit soit dans le but de se rapprocher d'Allah. Donc celui qui essaie de se rapprocher d'Allah dans un endroit qui n'a pas été légiféré par Allah, dans ce cas-là, il commet une bid'a, et c'est une bid'a de se réunir à cet endroit-là. Et il dit le cheikh que il y a l'exemple de l'homme qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander est-ce qu'il pouvait aller sacrifier un chameau dans un endroit qu'on appelle Bouana. Il avait fait le vœu, hein, il avait fait un vœu qu'il allait, s'il était exaucé, il allait sacrifier un chameau à cet endroit-là. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a posé la question. Est-ce que dans cet endroit où tu veux aller sacrifier ce chameau, est-ce qu'il y avait une idole parmi les idoles de la Jahiliya que les gens adoraient? L'homme a répondu non. Il lui a dit, est-ce que à cet endroit-là il y avait un rassemblement parmi les rassemblements de la Jahiliya qu'il faisait ou une célébration qu'il célébrait à cet endroit-là? Et l'homme a dit non. C'est-à-dire, est-ce que c'était un endroit où ils se réunissaient pour faire leurs fêtes, hein, dans le but d'adorer Allah ou de faire leurs adorations dedans? Il a dit non. Alors, dans ce cas-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans ce cas-là, réponds à ton vœu. C'est-à-dire, fais ton vœu, hein, respecte ton engagement envers Allah et va faire ton sacrifice parce que tu n'as pas le droit de respecter le vœu que tu as fait si c'est une désobéissance d'Allah ou bien dans ce que tu ne possèdes pas, dans ce que le fils d'Adam n'est pas propriétaire. C'est-à-dire, tu ne peux pas, par exemple, sacrifier le chameau de quelqu'un d'autre. Si ça ne t'appartient pas, tu ne peux pas le donner. Et non plus si c'est un péché. Comme par exemple, tu as fait un vœu
à Allah que s'il allait exaucer de faire telle ou telle chose parmi les péchés dans, que, des choses que Allah a interdit. Tu n'as pas le droit de le faire dans ce cas-là. Tu dis, oh Allah, si tu m'exauces par exemple dans telle ou telle affaire que je te demande, je vais par exemple manger du porc. Ça, c'est pas permis, tu vois, parce que c'est un péché. Il dit وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى بِدْعِيَّةِ ذَلِكَ الْإِجْتِمَاعِ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم لَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا يعني مكانا للاجتماع والتردد على قبره صلى الله عليه وسلم لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك ولهذا لم يكن الصحابة يترددون على قبر النبي صلى الله عليه وسلم كلما دخلوا المسجد إنما كانوا إذا قدم أحدهم من سفر أتى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه ثم ينصرف خشية من نهي الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال لا تتخذ قبري عيدا يعبد لا تتخذ قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا يعني ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا أي بترك صلاة النافلة فيها فإن من السنة صلاة النافلة فيها. Donc le cheikh il explique que parmi les choses qui indiquent que cela fait partie des innovations de se réunir dans ces endroits, dans des endroits que Allah n'a pas légiféré, c'est l'exemple de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsqu'il a interdit de se réunir autour de sa tombe de cette façon, de prendre sa tombe comme un lieu de visite dans lequel les gens se réunissent pour visiter sa tombe de cette façon à chaque moment ou à chaque occasion. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit par exemple, ne faites pas de ma tombe un Eid, c'est-à-dire un endroit de rassemblement où vous venez constamment pour ma tombe, pour voir ma tombe ou visiter ma tombe. Donc le cheikh il dit, c'est-à-dire un endroit où les gens se rassemblent et où les gens viennent pour constamment retourner à chaque fois. Il dit parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a interdit ça parce que le fait de revenir constamment à sa tombe, ça c'est une chose qui amène les gens à tomber dans le shirk avec le temps. Et c'est pour ça que les sahaba ils ne faisaient jamais ça. Les sahaba au contraire, lorsqu'ils rentraient à la mosquée, ils n'allaient pas à chaque fois voir la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ils faisaient ça juste lorsque l'un d'entre eux venait d'un voyage. Donc ils allaient par la suite saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses deux compagnons, puis ils retournaient et ils ne revenaient plus pendant qu'ils étaient dans la ville, ils ne revenaient plus par la suite à chaque fois parce qu'ils avaient peur de l'interdiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ne faites pas de ma tombe un Eid et ne rendez pas vos maisons ou vos demeures des tombes, c'est-à-dire ne faites pas que vos maisons, vos demeures deviennent comme des tombes. Pourquoi? Parce que les tombes, dans les tombeaux, dans les cimetières, on n'a pas le droit de prier. Donc c'est comme si le prophète Sam disait, ne faites pas vos maisons comme des cimetières ou des tombeaux, c'est-à-dire un endroit où on ne prie pas. Et le cheikh, il explique ça en disant que ça veut dire que les prières surérogatoires, c'est bien de les faire à la maison. C'est ça la sunna. La sunna, c'est que la prière obligatoire, tu la fais à la mosquée, puis la prière surérogatoire, tu la fais chez toi. Et donc, en général, les sahaba, ils ne faisaient pas la sunna, les nawafil, ils ne les faisaient pas à la mosquée. Ils les faisaient chez eux, ils priaient le fard à la maison. Ils faisaient le fard, l'obligatoire, ils faisaient à la mosquée. Puis après, ils retournaient à la maison faire les nawafil. Après, le cheikh, il dit وأما مثال الأعياد المكانية المشروعة فكالاجتماع فكالاجتماع حول البيت العتيق للصلاة والاعتكاف وتلاوة القرآن فيه وللطواف حوله أو الاجتماع في منى أيام التشريق وفي عرفة يوم الوقوف وفي مزدلفة ليلة العاشر فهذه كلها أعياد مكانية يجتمع المسلمون فيها لعبادة الله عز وجل. Donc juste avant de passer à un autre sujet, juste j'aimerais mentionner un point. Ben, le cheikh Ibn Taymiyyah, il va en parler de ça plus loin dans le livre, lorsqu'on va arriver à cette question. Mais juste pour dire que les gens qui vont souvent visiter la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ils partent à Médine, ils pensent que le but d'aller à Médine, c'est de visiter la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est une bid'a, yani. Et c'est pas ça la raison pour laquelle on va à Médine ou on va yani, à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La raison c'est pour visiter la mosquée, pas visiter la tombe. Et les ulama ils disent on va pour visiter la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et prier dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il y a dans la mosquée dans le fait de prier dans la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam un mérite et une grande récompense. Puisque chaque prière que tu fais à la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vaut 1000 prières. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné donc le mérite à ce sujet-là. Mais par contre, il n'y a pas la mention d'un mérite spécial pour aller visiter la tombe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La tashaddu rihal, la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid ». C'est-à-dire, on ne doit pas faire de voyage pour visiter une mosquée, excepté une des trois mosquées suivantes. Puis il a mentionné Al-Masjid al-Haram, Al-Masjid al-Aqsa, Al-Masjid al-Hada. C'est-à-dire, la mosquée à la Mecque, Al-Haram, la mosquée Al-Bayt al-Maqdis, c'est-à-dire la mosquée qui est en Palestine, Bayt al-Maqdis, Masjid al-Aqsa et Masjid Hada, c'est-à-dire cette mosquée à Médine, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Ça, c'est les trois mosquées pour lesquelles on a le droit de voyager pour aller prier dedans. Mais les autres mosquées et les tombes, on n'a pas le droit de faire des voyages pour aller prier dedans. Donc ceux-là, parmi les musulmans qui s'en vont faire des pèlerinages dans des tombes de saints pour aller adorer les morts, prier les morts, ça c'est du shirk. Hein? C'est des voyages de shirk, c'est pas des voyages d'adoration. Et c'est pas des pèlerinages acceptés dans l'islam, c'est des innovations. Et il y en a qui se basent sur des faux hadiths, des hadiths fabriqués pour essayer de justifier ça. Hein? C'est comme il y a des hadiths faux que les soufis rapportent, parce que souvent les soufis ils se basent toujours sur des choses, des faux hadiths, pour c'est même pas des hadiths, c'est des hadiths qu'on, les ulama ils disent c'est des maudu'at, c'est-à-dire des choses qui sont même des hadiths fabriqués. Et ces hadiths là ça dit par exemple man maudu', hein, maudu'at, maudu' c'est singulier, maudu'at c'est pluriel. Ça veut dire des hadiths fabriqués, inventés. Et ça, là, parmi ces hadiths, il y en a qui dit, par exemple, Man zarani fi ba'da mamati, fa ka'annahu zarani fi hayati. C'est-à-dire, un hadith qui dit, une parole qu'ils ont inventée qui dit, celui qui m'a visité après ma mort, c'est comme s'il m'avait visité durant ma vie. Tu vois? Ou bien, il y en a plein de paroles comme ça, il y en a qu'ils ont inventées. Donc si vous entendez ces gens-là, des soufis comme ça, qui vous rapportent des hadiths pour te montrer le mérite de visiter la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou des choses comme ça, sache que ça c'est des hadiths fabriqués, des hadiths faibles, des hadiths maudours, et qu'il n'y a aucune preuve dans ces hadiths-là. Après le cheikh il dit... Oui, en ce qui concerne les lieux de rassemblement dans lesquels les gens se rassemblent pour ce genre d'événements ou célébrations ou adorations, mais qui sont légiférés, comme par exemple de se rassembler autour de la maison d'Allah à la Mecque pour faire la salat, pour faire l'itikaf, pour réciter le Coran, pour faire le tawaf, pour se réunir à Mina pour, lors des jours de Ayyam al-Tashriq, et de se tenir sur Arafat et de dormir à Muzdalifa la dixième nuit de Dhul-Hijjah. Tout ça, c'est des endroits dans lesquels il est permis de se réunir et de se rassembler pour adorer Allah. Parce que c'est des choses qui sont justifiées par la charia. Hein, il y a des preuves à ce sujet-là. أما الأعياد الزمانية المشروعة فمثل عيد الفطر وعيد الأضحى وكل منهما يأتي بعد أداء ركن من أركان الإسلام. فعيد الفطر يأتي بعد أداء ركن الصيام وعيد الأضحى بعد وقوف بعد الوقوف بعرفة وهو ركن من أركان الحج بل هو الركن الأعظم فهذان العيدان والاحتفال بهما وكذلك صلاة العيدين وذبح القربان في عيد الأضحى هذا كله من الأعياد الزمانية التي تتكرر على المسلمين فليس للمسلمين غير هذين العيدين وعليه فإن إحداث أعياد غيرهما إنما هو من الابتداع في الدين كعيد المولد أو المناسبات المختلفة وبالتالي فهي من أعياد الجاهلية التي ما أنزل الله بها من سلطان ولذلك لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ووجدهم يحتفلون بيومين من السنة يوم النيروز ويوم المهرجان قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا يوم عيد الأضحى ويوم الفطر فدل على أنهما عيدا الإسلام وأنه ليس للمسلمين أعياد سواهما. Donc le cheikh il dit en ce qui concerne les célébrations ou le fait des célébrations en ce qui concerne les célébrations qui se répètent à chaque année et qui reviennent dans le temps à chaque année et qui sont légiférées, il y a comme exemple le Eid al-Fitr et Eid al-Adha. Et chacune de ces fêtes, de ces célébrations, sont établies après avoir appliqué ou après avoir rempli un des piliers parmi les piliers de l'islam. Par exemple, Eid al-Fitr, ça vient après le pilier du jeûne de Ramadan. On fait Eid al-Fitr. Et Eid al-Adha, quand on fait le sacrifice du mouton, ça c'est après s'être tenu sur Arafat. Et Arafat, c'est un des piliers parmi les piliers du Hajj, et c'est même le plus important et le plus grand des piliers du Hajj. Et donc ces deux célébrations-là, on les célèbre et on les appelle donc Al-Eidan, les deux Eid. Et dans Eid al-Adha, on va sacrifier un mouton. Eid al-Adha, on va sacrifier un mouton. Et donc, toutes ces deux célébrations-là, dans ces deux célébrations-là, ça, c'est des célébrations qui se répètent à chaque année. Et ça, c'est légiféré. Eid al-Adha, Eid al-Fitr. Et les musulmans n'ont pas d'autres Eid que ces deux Eid. N'ont pas d'autres célébrations que ces célébrations-là. N'ont pas d'autres fêtes que ces fêtes-là. Donc, toute autre fête qui est inventée en dehors de Eid al-Fitr, en dehors de Eid al-Adha, alors c'est des choses qui sont innovées dans la religion et qui n'ont rien à voir avec l'islam. يعني الجمعة العلماء يقولون que c'est العيد الأسبوعي c'est-à-dire la célébration يعني hebdomadaire qui se répète à chaque semaine le vendredi et c'est comme un Eid parce que ça revient à chaque semaine hein non mais c'est pas comme les deux grandes fêtes c'est plus grand mais en même temps aussi comme le cheikh dit toute autre fête que ça c'est pas permis donc les autres fêtes que les koufars célèbrent on n'a pas le droit de les imiter dans ces fêtes là que ce soit Noël le jour de l'an la Pâque l'anniversaire de quelqu'un à cause de sa naissance, là, sa date de naissance, ou bien la fête des mères, la Saint-Valentin, la Saint-Jean, l'Halloween, ou peu importe quelle autre fête, la fête nationale d'un pays, comme par exemple la fête du Canada, la fête... par exemple, il y a l'action de grâce, ou bien dans d'autres pays, la fête du 14 juillet. Chaque année, le 14 juillet, ils font une fête. Aux États-Unis, il y a le 4th of July, le 4 juillet, et en France, 14 juillet. Toutes ces fêtes-là, c'est des fêtes de kufr et de shirk et de bid'a et d'égarement, et on n'a pas le droit, c'est pas permis pour les musulmans de les célébrer. Que ce soit au nom de quoi que ce soit, yani, peu importe, il y en a maintenant ici au Québec, maintenant parmi les groupes d'immigrants qui viennent, par exemple parmi les musulmans, ils viennent habiter chez les koufars ici au Québec, et puis ils appellent les autres musulmans à s'intégrer dans les traditions et les habitudes des koufars, hein, et ils disent, ah ben on est venu vivre ici dans ce pays, donc il faut vivre comme les gens ici. Hein, quand vous êtes à Rome, faites comme les Romains. Non, le musulman il fait pas comme les Romains quand il va à Rome. Même s'il est Romain, il fait pas comme les Romains. Même s'il est Québécois, il devient musulman, il va pas faire comme les Québécois par la suite. Il va se distinguer des Québécois, il va se distinguer, s'il est Français, il va se distinguer des Français. S'il est Américain, il va se distinguer des Américains. S'il est Grec, il va se distinguer des Grecs. S'il est Chinois, il va se distinguer des Chinois. Pour suivre l'exemple et la voie et la façon de vivre qui est enseignée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par l'islam. S'il est de peu importe de quel pays, de quelle origine il est, peu importe de quelle ethnie, ou tradition, ou coutume, quand il devient musulman, il doit yani, se limiter à ce qui est enseigné dans le Coran et dans la Sunna et laisser de côté les fêtes de la jahiliya. Les fêtes de l'ignorance, les fêtes qui ne sont pas légiférées par Allah, les fêtes qui ont été inventées par les hommes. Et si quelqu'un, par exemple, il était juif, il devient musulman, il abandonne les fêtes des juifs et il célèbre les fêtes islamiques et se limite aux traditions et aux principes enseignés par l'islam. S'il était chrétien, c'est la même chose. Il devient musulman, il laisse tomber les fêtes des koufars, chrétien, il célèbre qu'est-ce qui a été enseigné par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et la même chose pour les autres fêtes, que ce soit des fêtes laïques ou des fêtes religieuses des autres religions de kufr et de shirk, yani c'est la même chose. Donc ça c'est important. Et le cheikh il dit, les musulmans donc n'ont pas le droit d'inventer d'autres célébrations, que ce soit des fêtes innovées comme par exemple, les choses qui ont été inventées dans la religion, comme la fête de la naissance du prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça aussi c'est des bid'ahs, ou bien de d'autres occasions divergentes qu'on a mentionnées. Et les soufis, par exemple, eux, ils célèbrent pas seulement la fête de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais ils célèbrent même aussi la naissance d'un tel saint, ou un autre sidi, ou un autre sayyid, ou un autre, comment ils les appellent, un autre wali, ça c'est un wali, on célèbre sa naissance, ou on célèbre sa fête, un autre c'est un sayyid, hein, un wali ou un sayyid, ils vont dire on va aller à sa fête, des fois c'est une femme, hein, ils vont l'appeler un sayyida, hein, ou bien des choses comme ça, donc ils vont à la fête de cette sainte, hein, comme les chrétiens, les catholiques. Ils ont des centaines de saints, et bien les soufis, ils ont des centaines de saints aussi, et ils prétendent que ça fait partie de l'islam. Donc quand ils ont fait, quand ils ont dans leur village, il y a un grand saint qui est enterré, ils ont construit un dôme ou une mausolée ou une zawiya sur sa tombe. Donc chaque année ils vont là-bas, ils font comme une grosse foire, une grosse fête. Ils amènent des jeux pour les enfants, comme des jeux d'un parc d'attractions là. Une grande roue avec des jeux, des boissons, des sucreries, hein, c'est ça. Puis là, il y a de la musique, la danse, hein. Et pendant toutes ces occasions-là, les gens, ils se tournent autour des tombes, ils adorent les saints, ils en profitent même parfois pour faire des choses haram aussi là-dedans, parmi les kaba'ir. Hein? Donc, tout ça s'est mélangé avec les hommes et les femmes ensemble, hein? La mixité et toutes sortes d'autres choses graves, hein? Qui sont toutes entourées autour du shirk, qui est le plus grand de tous les péchés, hein? Donc ça c'est pour dire à quel point c'est grave, et ça c'est des exemples de ce qu'on retrouve dans certains pays musulmans. Donc, tout ça, ça fait partie des exemples de la jahiliya. Et le shaykh, il dit, et c'est pour ça que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, وَلِهَذَا لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ وَجَدَهُمْ يَحْتَفِلُونَ بِيَوْمَيْنِ مِنَ السَّنَةِ يَوْمَ النَّيْرُوزِ وَيَوْمَ الْمَهْرَجَانِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا. قَدْ أَبْدَلَكُمْ بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر فدل على أنهما عيدا الإسلام وأنه ليس للمسلمين أعياد سواهما فقوله أخبرت ببعض ما في ذلك من الأثر العظيم والدلالة الشرعية. Donc il dit, et j'ai expliqué certaines des narrations, des grandes narrations qui ont été mentionnées à ce sujet. Et également des preuves de la législation, hein, et de la charia sur la question. Donc il mentionne qu'il a rapporté ces choses-là. Donc on a terminé, donc on s'arrête ici. Inch'Allah, on continuera le prochain cours. Inch'Allah, là pour l'instant, on fait un cours par semaine de ce livre, mais lorsque lorsque je serai en vacances, Inch'Allah, on pourra faire trois cours par semaine avec le livre, parce que le livre, il mérite vraiment qu'on donne beaucoup de temps, parce qu'il est, premièrement, c'est un livre de 5 volumes. Donc ça, c'est juste le volume 1. Puis si on veut donc en profiter vraiment, il faut donner au livre plus de temps, inshallah. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.